des choses particulières de ça, c'est que l'ordinateur écoute ce qu'elle chante, l'analyse et s'en resserre pour manipuler les paramètres de traitement du son. Soit l'intensité qui vient moduler l'intervalle de transposition des harmoniseurs, par exemple, ou la durée des échos, ou ce genre de choses. Ou la durée de la réverbération et de l'écho ici. Ça, c'est deux extraits d'un autre spectacle aussi qu'on a fait, une sorte d'opéra interactif pour quatre chanteurs, chœur d'adultes, chœur d'enfants, percussions, une grosse machine. Ça, c'est la narration. C'était suite à un fait divers qui s'était produit au Brésil dans les années 80, quand un ferrailleur avait trouvé un coffre, l'avait ramené chez lui, un coffre dans une décharge, l'avait ramené chez lui et... après trois jours de marteau et de ciseaux à froid, il avait pu ouvrir le coffre pour trouver une espèce de poudre qui brillait dans le noir en pleine saison du carnaval. Donc, ils ont fait la fête avec ça. Ils en jetaient en l'air, ils en avalaient, ils se faisaient des peintures de guerre et autres décorations. Ouais. En fait, c'était les restes d'une clinique de radiothérapie qui avait été jetée n'importe où. Et cette histoire-là m'a semblé absolument saisissante parce que non seulement c'est un fait divers sordide, mais en plus... C'est pas du nucléaire militaire, là. C'est la radiothérapie, ça sauve des gens, ça, en principe. Et quand on fait n'importe quoi, n'importe comment, quand on jette les choses n'importe où, en l'occurrence, c'est les pauvres gens qui payent. Il y a eu 6 morts cette fois-là, dont la petite fille du ferrailleur. C'est elle qui raconte l'histoire, là. C'est pour ça qu'elle a une voix bizarre, parce qu'elle est morte, elle raconte son histoire depuis un lieu qui n'existe pas. Et ça me semblait aussi une bonne chose pour quelqu'un qui travaille sur les technologies, parce que le son électronique et électrique qui me passionne, pourquoi l'utiliser, à quoi ça sert, c'est quoi sa fonction, c'est quoi le sens de ça. C'est bien sûr le plaisir de faire des sons électriques, tout ça, de jouer avec des échos, des réverbes et le reste, mais quelle fonction lui donne quand on convient des spectateurs à écouter ou à regarder un spectacle et tout ça. Donc cette histoire-là me semblait justifier de l'électronique, que l'électronique ait un sens et que le travail de finesse musicale sur lequel j'essaye d'attirer votre attention depuis hier trouve une finalité, et au-delà du jeu gratuit. C'est lié à un projet esthétique qui, moi, me semble important. Donc voilà, vous êtes réveillés peut-être. J'espère. Alors, pour pouvoir aller plus loin dans notre affaire, quelques petits rappels. Désolé pour ceux qui connaissent ça par cœur, mais c'est pas mal de le faire. Souvent, on se trompe quand on veut essayer de maîtriser les technologies du son entre les différentes catégories. Comme j'ai mis là, il ne faut pas qu'on confronte la partie gauche, le monde de la musique, solfégique, avec les notions de base de la musique, et la partie de droite, l'acoustique. Les deux sont reliés, évidemment. La hauteur et la fréquence sont liées, la durée, là c'est lié, l'intensité, l'amplitude, le timbre, c'est plus difficile à lier. Mais les différents appareils à traiter et à générer du son travaillent le plus souvent dans la partie droite que dans la partie gauche. Il y a une grosse différence entre la hauteur et la fréquence. Quand on parle trop vite, on dit la hauteur et la fréquence, c'est pareil, mais c'est absolument pas vrai. Hier, j'utilisais l'objet M2F pour traduire des numéros de notes MIDI en fréquence. Ça, c'est un convertisseur exponentiel, comme je vous le disais, parce que notre sensation de perception de la hauteur, c'est pas de la fréquence. On n'entend pas des fréquences, on entend des hauteurs. Notre cerveau est câblé pour entendre de la hauteur, pas pour entendre la fréquence. Du coup, il faut faire super attention de ne pas se tromper de l'un à l'autre. Si je veux générer des notes MIDI, je travaille dans le monde de la hauteur. Si je veux générer des fréquences en Hertz, je travaille dans le monde de la fréquence. Et pour maîtriser les logiciels et le reste, ben, pour savoir lequel je veux, parce que c'est pas les mêmes objets. On peut facilement passer d'un monde à l'autre. Il y a tout ce qu'il faut. L'objet M2F ou F2M, par exemple. Mais il faut que ça soit clair à votre esprit. Pour le temps, ben là, on a de la chance. Le temps de l'acoustique et le temps de la musique, ça se ressemble beaucoup, les secondes, les millisecondes, etc. Remarquez quand même qu'il y a des différentes échelles. Ça, c'est important. Et les changements d'échelle sont une des manipulations fortes qu'on peut faire sur le son. C'est pour ça que je vous faisais entendre le premier extrait. Si vous avez entendu, il y avait des sons étirés très, 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 très longs. Ce qu'on peut faire avec des time stretch de différentes natures. Ça, c'est un changement d'échelle qui ne change pas la hauteur. C'est très différent de l'échantillonneur où je change à la fois la durée, l'échelle temporelle, et la hauteur. Deux procédés distincts. L'autre chose à dire, c'est que les temps n'ont pas le même impact. Des temps moyens ou longs, c'est le monde des événements individuels, des notes quand c'est des notes, des sons quand c'est des sons, ou des formes musicales, des motifs, da-da-da-da, ou des phrases musicales plus longues, ou des parties musicales. Donc les temps macroscopiques de la musique, c'est une échelle qui a des qualités propres à chaque niveau, moyen, court ou très long. Et le temps microscopique en dessous de l'événement, les parties d'un son. Tac! Il y a trois parties au moins là. Le T, le A, le K. Et ces questions-là, micro-temporelles, c'est les questions de timbre le plus souvent. J'essayais un peu maladroitement de faire des enveloppes un peu nuancées hier après-midi. Je travaillais à l'échelle micro-temporelle là. Et ça, typiquement, dans les logiciels qui nous intéressent ici, c'est de l'ordre du centième ou du millième de seconde. Ces événements-là. Donc attention, la durée change l'impact de ce que vous êtes en train de faire. Mais ce n'est pas forcément un problème, c'est juste pour en prendre conscience. Dans ces dernières années, le travail micro-temporel, le travail granulaire a été super important. Dans les techniques à la mode de synthèse et de traitement du son, la granulation du son, en coupant le son en tout petit bout et en remontant ou en dispersant ces fragments-là de manière aléatoire. C'est une technique utile. Si vous connaissez les GRM Tools, il y a un algorithme qui fait ça, l'algorithme shuffling. Il découpe le son en fragments et les agite. Si vous connaissez un peu la musique électroacoustique, je vous recommande d'écouter la musique d'Horacio Vajone, V-A-G-G-I-O-N-E, qui a souvent composé ici à Bourges. Qui est un des spécialistes de la musique granulaire. Et dans le monde de la musique pop, si vous connaissez le compositeur qui s'appelle BT, il faisait beaucoup de choses au début des années 2000, un sens du son extraordinaire, et il est célèbre pour son travail micro-granulaire aussi. Très intéressant. BT. BT. B-E-T. BT. Son vrai nom c'est Brian Transrow, mais il est connu sous le nom de BT. Regardez sur YouTube, il y a plusieurs clips très beaux en plus. Donc le temps nous sert à plein niveau. Remarquez qu'ici je ne vous parle pas de figures de notes, j'aurais pu aussi les croches, les noirs et autres. C'est un cas particulier de temps. Dans le monde de la musique électronique, il est relativement rare qu'on travaille avec des figures musicales calibrées comme celle-là. Si vous en avez besoin, ben vous connaissez l'équation, une noire vaut deux croches, et ainsi de suite. Ça, c'est facile à retrouver. Hier, les changements d'échelle, si vous vous rappelez l'affaire du filtre et des temps d'attaque, m'avait fait parler des décibels versus l'intensité. Alors là, il y a un cas particulier dans les logiciels aussi. Les logiciels sont par nature linéaires. L'amplitude va de 0 à 1 ou de 0 à 16368 selon la résolution de l'ordinateur. En 16 bits, ça fait 16 000 et quelques. Mais notre oreille demande des échelles, encore une fois, exponentielles en décibels. Donc méfiez-vous, et c'est critique dans la construction d'outils, ça, de savoir si vous travaillez en dynamique linéaire de 0 à 1 dans Pure Data ou en dynamique en décibels. Encore là, il y a tous les convertisseurs dans tous les sens, dans les trousses à outils. Mais si vous trouvez que l'intensité du son progresse pas comme vous le voulez, si ça augmente pas assez, par exemple, ou si ça augmente trop vite par rapport à ce que vous voulez entendre, en poussant un fader, en tournant un bouton, il est probable que ça soit lié à un problème d'échelle linéaire versus une échelle logarithmique ou exponentielle, c'est la même chose. Donc attention à ce point-là. Et puis reste les questions du timbre. On va aller voir ici. Le timbre, on a mis longtemps à avoir prise là-dessus. Pendant très longtemps, les musiciens ne savaient pas parler du timbre. Ils disaient, ben, ça c'est une flûte, ça c'est une trompette, ça c'est un tambour. Et puis ça s'arrêtait là. Et il y avait souvent d'énormes confusions à ce niveau-là. Et puis au fil de l'invention de l'acoustique au 19e siècle et au 20e siècle, on a commencé à avoir des outils. Le premier outil, celui que les acousticiens mettent le plus en avant, c'est le spectre, c'est-à-dire la composition du son en termes d'harmonique. Pour en parler, il nous faut trois mots qui devraient être familiers. Hier, je parlais de synthèse additive. La synthèse additive est faite avec ce son-là, l'oscillation sinusoïdale, qui a cette allure-là. Et après, on écoutait des sons riches qui ont cette allure-là. Alors ça, c'est ce qu'on voit quand on regarde le mouvement du haut-parleur qui fait ce son-là. D'accord? Ou bien c'est ce qu'on capte par un micro. Ça pourrait être un son de flûte à bec joué pas trop fort, et ça pourrait être un son de violon joué assez fort. Quand on regarde le spectre, ce qui ressemble beaucoup à ce qu'on entend, notre oreille entend le son en termes de composantes réparties du grave à l'aigu. Quand on regarde le spectre, donc d'une sinusoïde, on trouve une seule composante qui correspond à la fréquence fondamentale de ce son-là, à la note qu'on entend, quoi. Quand on regarde une dent de scie, on entend beaucoup de choses différentes. Ces deux sons-là, surtout le deuxième, on les qualifie de sons harmoniques. On voit que les bandes ici sont tout également espacées. Et si vous vous rappelez de la définition de l'harmonicité, c'est quand les harmoniques sont les multiples entiers de la fréquence fondamentale, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Pour 100 Hz, si mon son ici était de 100 Hz, ça serait 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz, etc. Perceptivement, les harmoniques ne s'entendent pas de manière égale, cela dit. Là, il y a une grosse différence. Cette série-là, si j'essaye de la solfier, de la transcrire en notes, je vais entendre, toujours pour 100 Hz, c'est un sol grave. Le 200 Hz, c'est un sol une octave au-dessus. 300 Hz, c'est un ré, une quinte au-dessus de ça. 400 Hz, c'est un autre sol. 500 Hz, sol. Si, 600 Hz, ré. 700 Hz, c'est un fa dièse un peu bas, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la série harmonique, qui est l'origine de l'accord tonique, l'accord majeur, dont on parlait hier aussi. Mais c'est une caractéristique du phénomène de perception exponentielle versus linéaire. Quand on regarde les Hertz, c'est une progression linéaire. Et ce qu'on entend, nous, c'est pas linéaire. J'ai des grands intervalles dans le grave et des intervalles qui se resserrent. Plus je monte dans la série harmonique, ça se resserre. On passe de l'octave, quinte, quarte, tierce, seconde mineure, et puis ça devient encore plus petit, quart de ton et poussière de ton, en montant de plus en plus. C'est cette chose-là que révèle le filtre. Je parlais des filtres, tiens. Le filtre, c'est une balade dans le monde du spectre et qui nous révèle plus ou moins l'aigu ou le grave du son, les différentes harmoniques du son. Je vais revenir sur les filtres après. Dernière chose qui est importante, certains sons échappent à la catégorie des sons harmoniques. Et la plupart des sons de la nature, des bruits ou des sons du monde, qui ne sont pas les sons de la musique traditionnelle, ont une autre structure, une autre organisation. Vous voyez que les traits ici sont complètement dispersés. Il y en a qui sont proches les uns des autres, il y en a qui sont loin, il y en a qui sont forts, il y en a qui sont doux. Il n'y a pas la régularité de la forme de ce son-là. Et pour notre oreille, ça sonne comme une sorte de cloche, comme un morceau de métal frappé. Ça pourrait être un bout de bois aussi. Ça pourrait être un claquement quelconque. Toute la famille des bruits, et ils sont bien plus nombreux que les notes de musique, n'a pas la structure harmonique que j'ai décrit. La famille des bruits sont des sons inharmoniques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'ordre harmonique. Et notre oreille les entend comme des sons complexes, des sons bruiteux ou des sons instables. Et c'est important pour la musique électronique, ça, parce que électroacoustique, parce qu'une bonne partie des sons de l'électroacoustique sont dans ce monde-là. Quand Pierre Schaeffer, dans les années 40, disait « on a un océan de sons autour de nous, il faut juste l'entendre et écouter ses qualités », il découvrait, ce que je viens de vous dire, qu'il y a bien plus de sons inharmoniques dans le monde réel que de sons harmoniques. Le son harmonique, c'est comme les voyelles, le son inharmonique, c'est comme les consonnes. Ça, c'est facile à saisir. Et les formes d'ondes des sons inharmoniques sont très très variables. Il n'y a pas de forme d'onde caractéristique comme il y en a dans le monde des sons harmoniques. Donc on n'a pas une forme simple ici. Quand on pousse cette affaire-là plus loin, on trouve des sons qui sont tellement inharmoniques qu'ils constituent des bruits proprement dit. C'est-à-dire que le spectre de ces choses-là est parfaitement plein. Il n'y a plus de traits individuels, il y a un espace, il y a une surface plutôt. Une surface du grave à l'aigu. Si la surface est complète de l'extrême grave, mettons autour de 15 Hz, à l'extrême aigu, mettons 20 000 Hz, on dit que c'est un bruit blanc. Ce qui correspond à la somme de toutes les fréquences audibles simultanées. Comme la lumière blanche correspond à la somme de toutes les fréquences visibles simultanées. Et après, il y a toutes sortes de bruits colorés. C'est un bruit aigu. C'est un bruit un peu plus grave. C'est un bruit médium. Ça, c'est ce qui est tout en projection. Là, ici, une sorte de bruit plutôt grave. Il n'y a pas de nom standard pour ces choses-là. Celui-là, on peut l'appeler bruit rose, parce qu'il y a beaucoup de sons graves dedans. Mais il y a quand même du bruit qui monte jusqu'à l'aigu, donc c'est comme un mélange de blanc et de rouge en lumière, ça fait du rose. Ça pourrait être un bruit bleu ciel, pour la même raison, parce que c'est du bleu avec un peu de blanc. Mais on ne dit jamais ça. Bruit bleu, vous trouverez rarement cette expression. Bruit rose, c'est courant, parce qu'il y a beaucoup de bruits de la nature qui sont dans la famille des bruits roses. Donc, quatre mots pour décrire les spectres, et ces quatre mots-là vous aident à savoir comment manipuler le son, qu'est-ce qui est la dimension importante, forte du son. Est-ce que c'est un son harmonique, un son inharmonique, un bruit? Un bruit blanc ou un bruit coloré. Par bruit coloré, j'entends une petite bande de bruit. Par exemple. Et le premier, c'était la sinusoïde, qui est un son seul, un son isolé. Ça n'existe pas dans la nature, mais ça nous arrive souvent d'en utiliser en électronique. Bon, ça, c'est ce que les acousticiens ont découvert au 19e siècle, début 20e. Et ils pensaient avoir tout trouvé sur le son. Mais quand on écoute le vrai son, le son musical ou le son du monde qui nous entoure, c'est pas ça qu'on entend. On entend ces choses-là, mais on les entend jamais comme ça, statiques, fixes, immuables. Les sons qu'on entend ont toujours des formes, des attaques, des parties plus ou moins stables, des parties où le son s'en va. Quand je faisais « tac » tout à l'heure, je donnais une forme au « a » essentiellement. Un « a » tenu « a », c'est un peu informe. Un son un peu flasque, alors que si je fais tac, je le transforme en son de percussion en lui donnant une attaque raide, une partie stable pas trop longue et un final qui est raide aussi, qui attire l'oreille. Et depuis les années 40-50, notamment à cause de Schaeffer et de l'école électroacoustique parisienne, on s'est rendu compte que les formes des sons, les enveloppes dynamique pour prendre le nom le plus strict, les formes sonores sont essentielles pour la perception du son et la qualification des sons. J'entends des sons et beaucoup de leur qualité vient de leur forme. Un son de percussion, si je veux qu'il ait cet effet percussif, doit avoir une attaque raide et une durée pas trop longue. Un son chantant doit au contraire avoir une partie stable quelque part. Autrement, ça n'a pas le temps de chanter. Bon, pour prendre deux exemples simples. Et en fait, on sait depuis que c'est dans les enveloppes dynamiques que se situe toute la finesse du contrôle du son. Si vous faites des sons de synthèse ou des sons de traitement, plus vous accordez d'attention à la forme du son, plus vous contrôlez l'effet qualitatif du son. C'est le point clé. Dans les synthétiseurs commerciaux, même les plus cheap, si vous passez un peu de temps à bidouiller les enveloppes, vous obtiendrez des sons de bien meilleure qualité, qui répondent mieux au jeu, qui répondent mieux au projet musical que vous avez, qu'en prenant les choses toutes crues, un peu passe-partout, que font les industriels. Vous pouvez faire le travail sur les intensités à plein d'endroits, dans les enveloppes dynamiques des synthétiseurs, ça c'est évident, mais de façon plus subtile, dans les contrôles de mixage des bandes de montage. Vous connaissez un peu Pro Tools ou ce genre de logiciel-là, j'imagine? Bon. Vous savez, le contrôle de l'intensité, avec les bandes où on déplace des points pour moduler l'équivalent virtuel des tirettes de mixage. Bon. Ça, c'est du contrôle dynamique. Et c'est un outil électroacoustique fin, qui est optimisé pour faire ça, qui fonctionne super bien. Rien ne vous impose de le penser juste comme un outil de mixage à grande échelle temporelle. Vous pouvez aussi le penser comme un outil de micro-contrôle du son à échelle petite ou courte. C'est aussi des enveloppes dynamiques, et je vous garantis qu'en travaillant ça correctement, vous allez faire vivre vos mixages et faire vivre votre matière sonore d'une manière que vous ne soupçonnez pas. C'est le point, c'est la baguette magique de l'électroacoustique. Vraiment. Le reste contribue à ça. Mais si vous passez du temps là, c'est un temps qui va être extrêmement payant. Bon. Une des conséquences de cette déclaration forte, c'est que les enveloppes ADSR, comme je le disais hier, j'en ai une là, sont à peine adéquates. Alors, c'est un pis-aller que les industriels des années 60 avaient trouvé pour faire des composantes qui ne coûtaient pas trop cher pour leurs synthétiseurs. Rien ne nous impose des enveloppes pauvres de nos jours. Rien du tout. Et c'est un des grands intérêts des outils programmables ou des bons bandes de montage type Pro Tools, de nous armer pour faire un travail plus fin et plus riche à ce niveau-là. Alors, ça, on a vu ça. Le traitement du sang, maintenant, découle de ce que je viens de rappeler. Les effets qu'on trouve dans le commerce ou qu'on se bricole soi-même sont dans une vaste proportion liés aux quatre dimensions du son, la hauteur, le temps, l'intensité et le timbre. Par exemple, les harmoniseurs, les transpositeurs et les vibratos divers travaillent la hauteur. Les délais, les échos, les réverbérations, éventuellement le flanging, le phasing et le chorus sont des effets temporaires. Il y a un peu de timbre. Les compresseurs, les limiteurs, les expanseurs, tout ça, c'est des effets dynamiques. Et les filtres, les wah-wah, flanging, chorus, phasing, sont des effets de timbre. Commençons par les effets de hauteur du son. On trouve dans le commerce et on peut facilement recréer dans Pure Data des effets qui agissent sur la hauteur du son. Dans le commerce, vous allez trouver des transpositeurs en général qui varient le son de plus ou moins une octave. Des fois deux, mais c'est déjà assez rare. Les pédales de guitare électrique ou les pitch shift des logiciels de montage nous offrent une transposition plus ou moins limitée du son. Pourquoi limitée? Parce que dans ces outils-là, on veut essayer de conserver le réalisme de la transposition. On essaye de faire en sorte que si je double une guitare à l'octave en dessous, par exemple, ce qu'on appelle un octaveur, pour donner un gros son, pensez grosse guitare métal, je ne veux pas que la qualité guitaristique du son disparaisse trop. Si je veux harmoniser une voix pour faire à partir d'un seul chanteur, un groupe de Beach Boys, encore là, il faut un certain réalisme des harmonisations et des transpositions. Mais évidemment, rien ne vous en contraint à faire ça dans le monde de la musique électroacoustique. Une autre des grandes sources de richesse, et Schaeffer et ses amis ont vu ça tout de suite, en débordant largement les fréquences raisonnables, plus ou moins une octave, en allant 6 octaves en dessous ou 12 octaves au-dessus, je dis ça au hasard, vous allez trouver encore là des richesses considérables dans le son. Beaucoup de la musique électroacoustique vient d'une exploration hors du registre normal des sons qu'on a enregistrés. Par exemple, transformer un son de voix en grondement sourd, presque un tremblement de terre. Imaginez un méga méga Dark Vador, par exemple. Dark Vador à 10 octaves en dessous, ça devient un grondement où on n'entend plus les paroles, on entend. C'est un son inusité, mais qui peut faire une espèce de nappe de fond très sombre et très inquiétante. C'est pour ça qu'on avait fait Dark Vador comme ça. Et on change d'univers. Un mot tout simple prononcé par une voix claire devient un phénomène d'une autre nature esthétique complètement. À l'inverse, et ça c'est souvent un peu négligé, transposer les sons vers l'aigu comprime la durée. On fait ça le plus souvent avec un échantillonneur. J'enregistre un son vers le milieu du clavier et après je m'éloigne vers le grave ou vers l'aigu. Et plus on s'éloigne, plus le son perd en réalisme, mais ça donne ce qu'on appelle l'effet de Mickey Mouse. Mickey Mouse, c'était la voix de Disney lui-même, transposée une tierce au-dessus. Mais en débordant ces premières intervalles-là, en allant vers l'aigu, ce qui était un son de durée normale, par, devient un petit blip, un petit fragment de son de rien du tout. Et les transpositions vers l'aigu, c'est la porte vers cette esthétique granulaire que j'évoquais tout à l'heure. Beaucoup de ces effets-là viennent d'une transposition extrême vers l'aigu, 3, 4, 5 octaves vers l'aigu, par exemple. Donc, je ne vais pas développer trop ce point-là, peut-être en regardant un transpositeur tout à l'heure dans Pure Data, si on a le temps. Mais je vous invite à être curieux, tout simplement. À ne pas rester dans la première octave autour du son d'origine. Aller bien, bien plus loin. C'est la deuxième famille qui m'intéresse plus parce qu'elle est souvent mal comprise et ça mérite un peu de temps. Schématiquement, les délais, les retards, les échos et même les réverbérations sont organisés comme ça. J'ai le son direct qui arrive ici, qui rentre dans l'appareil. Et c'est très simple, un retard. C'est quelque chose qui enregistre un fragment de son, qui attend un certain temps et qui rejoue ce fragment de son-là. Il n'est pas plus simple techniquement. À l'époque analogique, la chambre d'écho, c'était une bande magnétique qui enregistrait un bout de son à sa tête de lecture, d'enregistrement, pardon, qui rejouait le bout de son à sa tête de lecture qui était un peu plus loin. Puis, il y avait un temps de retard qui correspondait physiquement à la distance entre les deux têtes et éventuellement au parcours de la bande magnétique entre les deux. On pouvait jouer avec ça, les électroacousticiens de cette époque-là pouvaient parfois faire des chemins très très longs entre la tête de lecture et la tête d'enregistrement et la tête de lecture. On prenait des pieds de micro comme ça, on pouvait faire tourner une longue boucle pour faire une boucle de je sais pas 4 minutes avant que la boucle reprenne, ce qui est un temps de retard extrêmement long. En numérique, c'est pareil, simplement le son est enregistré, mis dans une mémoire pendant un certain temps, puis rejoué. Donc le paramètre central de tous ces effets-là, tous les effets temporels, c'est le temps de retard, évidemment. Ça va toujours. Et puis ça peut être que ça. J'ai une entrée, un retard, et puis le son est retardé et rejoué, tout simplement. Toutefois, ces appareils-là ont été inventés pour imiter ce qui se passe dans la nature. Bon, c'est pas super clair, l'écho est rapide et un peu lisse. Mais je ne sais pas si vous l'entendez. Tac, 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 tac. On entend. Ou plus simplement, on va dans une forêt ou sur le bord d'une falaise. Écho! 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 Le retard est souvent non seulement un son retardé après son émission directe, mais il y a souvent un retour du son. Et le son revient. Alors, cette chose-là existe dans la plupart des lignes à retard ou des chambres d'écho. C'est ce qu'on appelle le feedback ou la réinjection. Et c'est très très simple techniquement. Je prends le son et je le réinjecte à l'entrée avec un potentiomètre pour varier la quantité de son réinjecté. C'est comme ça qu'à partir d'une ligne à retard numérique, on a le son retardé. C'est tout bête. Et puis il y a souvent, mais pas toujours, une dernière composante qui est un filtre passe-bas. Parce que dans la nature, les échos ont tendance à non seulement à baisser en intensité, mais aussi à perdre en aigu. Pourquoi? Parce que l'énergie acoustique qui se déplace dans l'air se dégrade sur les différentes surfaces. Les sons aigus ont des petites longueurs d'onde, millimétriques ou centimétriques. Et ça rentre en interférence avec les aspérités des surfaces. Sur un mur comme ça, par exemple, les fréquences aiguës explosent tout de suite. Et elles ne sont plus réfléchies de manière cohérente. Et donc, on les entend de moins en moins. Pour simuler ça, le filtre passe bas, le même que tout à l'heure. On voit qu'hier, on voit sa forme dans le monde du spectre. Ça laisse passer le grave et sa coupe l'aiguë. Et le filtre passe bas combiné à la réinjection nous donne la plupart des effets d'écho classiques. Illustrons ça en vrai. Voilà. J'imagine que vous voyez pas assez. Là, je suis allé dans le manuel, tout simplement. Je suis allé chercher l'exemple G02 de la ligne à retard. J'ai copié-collé ça et j'ai modifié les choses un petit peu. La chose centrale, c'est que dans Pure Data, pour faire une ligne à retard, il faut deux objets, del read et del write. Il y en a un write qui écoute le signal arrivant et le mémorise. Et del read, c'est ce qu'on appelle un tap, ou c'est une oreille qu'on place dans ce circuit-là à un certain point. Del write, ici, il y a un paramètre qui dit 2000. Cet objet-là enregistre 2 secondes de son. Puis au bout de 2 secondes, recommence à enregistrer. Et ça enregistre en permanence. Del write, lui, prend juste des fragments d'une certaine durée. Et c'est le temps de retard, en fait. Donc, je vais lui demander de jouer la note 60 ici. Non, pas 6, 60. Je vais couper la réinjection pour commencer. Donc, le premier paramètre principal de la ligne à retard, le temps de retard, en sachant que j'ai un maximum de 2 secondes. Ici, j'ai mis 900 millisecondes, presque une seconde. Évidemment, si je mets une durée plus courte, je vais avoir un écho plus rapide. Vous ne l'avez pas entendu tellement, c'était rapide. Je vais le mettre un peu plus long. Ah, il faut mettre un tout petit peu de... Voilà. Plus clair. Tout à fait assez. Là, on l'a entendu « padam, padam ». Cette durée d'écho-là, elle est assez connue, en fait, parce que c'est celle qui correspondait à l'intervalle temporel entre la tête de lecture et la tête d'enregistrement et la tête de lecture des magnétophones des années 50. Ah! 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 Ah, ah. C'est le son slapback, l'écho slapback, genre Elvis, ou genre, comment il s'appelle, Gene Vincent. Bebopalula, she's my baby. L'écho rockabilly, c'était un écho comme ça de l'ordre de 150 millisecondes. Et comme vous entendez, c'est l'écho le plus basique. Il n'y a pas de réinjection, il n'y a pas de filtrage. C'est l'écho... très simple. En augmentant les durées d'écho, le phénomène devient, non, devient plus sensible. Du coup, j'ai un petit peu trop de réinjection. L'équilibre entre les paramètres est assez subtil. La quantité de réinjection et la durée de l'écho sont interreliées dans leur effet. Donc, il faut constamment ajuster l'un par rapport à l'autre. Ce n'est pas des choses dont on fait un réglage une fois pour toutes. Je peux pas, il n'y a pas de réglage simple pour dire « donne-moi 3 répétitions et arrête-toi ». Il faut toujours l'ajuster parce que cette affaire-là dépend de la durée du délai. Voilà. Pardon. Un petit peu plus simple, ça vaut 3. Pardon. OK. Et de cette façon-là, on peut aller vers des temps de délai plus importants. Non, pas ça. Lorsqu'il y a de la réinjection, l'écho devient rythmique. Et alors là, il y a un des trucs du métier significatif, surtout dans les musiques électro un peu dansantes. Mais ça, c'est vrai pour n'importe quelle de musique, en fait, il faut faire attention à ça. Étant donné que l'écho a son propre rythme, il est important d'ajuster la durée de l'écho à la structure musicale que vous êtes en train de faire. Pour prendre une musique dansante, si j'ai une pulsation comme ça, vous obtiendrez des échos plus cohérents avec le son d'ensemble, moins brouillons. Plus en phase avec la musique et sa rythmique, si vous contrôlez l'écho, le temps d'écho. Ça peut vous amener à faire des petits calculs savants de BPM, ça fait combien de millisecondes, etc. Je ne vais pas le faire maintenant, mais je vous indique que c'est comme ça que ça se fait. On divise, pour savoir quelle est la durée d'une pulsation, il faut trouver son nombre de battements par seconde, on divise par 60. Ça nous donne la durée d'une pulsation. Si j'ai 60 pulsations par seconde, la réponse est 1, c'est-à-dire 1000 ici. Si je mets 1000, j'ai un écho toutes les secondes. Si j'ai au contraire un morceau qui va plus vite, ta, comme ça, je vais calculer que j'ai 120 pulsations par seconde. 120 pulsations par seconde divisé par 60, non, c'est pas vrai, ça devrait donner l'inverse. Ça devrait te donner 500, la réponse, là. La règle de 3 est pas bonne. Il faudrait trouver la bonne règle de 3, mais c'est comme ça que ça se calcule. Oui. Ajuster la durée des échos en fonction, si c'est pertinent, de la pulsation de votre morceau. Pour des musiques non pulsées, c'est ce que je faisais hier, dans des affaires de texture et de nappe, on veut surtout pas un écho répétitif trop rythmique, parce que ça vient justement casser l'effet de nuage sonore. Mais c'est ce paramètre-là qu'on doit contrôler en finesse pour obtenir un résultat précis. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ici? Vous remarquez que dans cette ligne à retard toute simple, là, je n'ai pas mis de filtre qui dégrade l'intensité des échos. Si je voulais le faire, ben c'est très simple. Il faut... Il faudrait insérer un filtre ici. Là. Le filtre, c'est l'eau. Ouais. Comme ça. Et lui mettre une fréquence de coupure. Plus basse que 20 000 Hz. Et avec ça, vous contrôlez la brillance des échos par rapport au son direct. Plus la fréquence du filtre est basse, plus il coupe des aigus, plus les échos sont sombres par rapport au son original. Ça veut dire qu'à chaque répétition, le son va s'altérer. Alors, on va faire ça comme ceci. Je vais mettre un écho long, une seconde de... 600, c'est pas mal en fait. Oui. Je vais envoyer un autre son. Ah. 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 Alors un mot. Là, il n'y a pas de filtrage. Maintenant, je vais mettre un filtrage relativement bas. Vous allez voir comment l'écho s'altère, la couleur de l'écho s'altère. Je vais mettre 500 Hz. Ça va faire très sombre. Ah! Ah. Oui. Ça c'était un peu brutal, je vais le mettre moins brutal, je vais le mettre à 2000 Hz. Ah. Là, ça s'altère plus lentement. 1000 Hz, ça va aller un peu mieux. Ah. Voilà. Les psychédéliques adoraient ça, genre Pink Floyd, etc., parce que apparemment, quand on était sous emprise de LSD, on entendait les sons parfois en boucle, comme ça, des boucles où la qualité sonore s'altérait beaucoup. Si vous écoutez les premiers disques de Pink Floyd, on les entend jouer beaucoup avec le filtre de l'écho, et pour faire ces phénomènes. Alors, si vous ne voulez pas cet effet-là, il faut mettre le filtre grand ouvert, en l'occurrence, le remettre à 20 000. Bon, ça c'est un écho standard, un écho tout à fait basique avec les fonctions que vous allez retrouver dans toutes les chambres d'écho du monde. Normalement, en comprenant ce mécanisme-là, vous pouvez ouvrir n'importe quel appareil, lexicon, je ne sais plus quelles sont les bonnes marques d'écho de nos jours, mais Yamaha ou n'importe quel effet dans n'importe quelle bande montage. Quand c'est un écho, ça fonctionne toujours avec ces paramètres-là. Simplement, des fois, les mots sont déguisés. Les fabricants d'appareils, des fois, ils donnent des noms étranges aux paramètres. Au lieu de s'appeler « temps de retard », ça va s'appeler « délai ». Bon, ça, c'est plus clair. Au lieu de s'appeler « fréquence de filtrage », ça va s'appeler « brillance ». Ou d'autres termes un peu obscurs, comme ça. Donc, mais il n'y a pas d'autres paramètres que ça dans une chambre d'écho, en fait. Donc, c'est bon. Normalement, vous devriez pouvoir vous débrouiller avec n'importe quel écho à partir de ça. Un dernier petit point, parce que je n'oublie pas mon idée d'interactivité. J'ai modifié le patch d'une autre manière. J'ai mis des receives un peu partout. Pourquoi ça? Pour être capable de recevoir des informations à distance d'autres choses. Par exemple, mon entrée de micro, je l'ai branchée ici pour qu'elle entre dans la boucle. Mais j'ai aussi mis un contrôle sur la hauteur, un contrôle sur le temps de délai et un contrôleur sur la réinjection, le feedback. Et là, j'ai fait deux pré-programmes. Qui serait facile d'attribuer à deux boutons, et puis quand je le veux, je déclenche ces deux sons-là avec deux échos. Ou bien, ça serait tout aussi facile de manipuler avec une tirette ou un joystick ces paramètres-là en temps réel. Dans quel but? soit d'ajuster finement à l'oreille, parce que comme je vous l'ai dit, prenons dans le cas d'un écho qui est dans le tempo de la chanson. Dark Side of the Moon de Pink Floyd était célèbre pour ça, des échos bien rythmés. Les musiciens ne jouent jamais comme des machines, si je pense au concert. Et donc, ce n'est pas du tout idiot de moduler en finesse le temps d'écho pour s'adapter au tempo réel des musiciens sur scène maintenant. Vous voyez? Et un ingénieur du son un peu soigneux va faire ça. Ou bien, quand on est dans un dispositif d'improvisation, on peut avoir préprogrammé des choses d'avance et les déclencher au bon moment quand le morceau arrive à ce qu'on veut faire ou quand on sent qu'il faut faire ce réglage-là plutôt que tel autre. Pour être un peu grossier mais clair, passer d'un son rockabilly à un son Pink Floydien psychédélique en l'espace d'un clic. Donc, ça, c'est des pré-réglages ou des réglages en temps réel. Et c'est très, très utile dans ce genre de dispositif-là. On peut évidemment changer chaque paramètre un à la fois par des contrôleurs en temps réel. Mais je voulais vous montrer cette option-là parce que ça me permet de faire trois réglages simultanés en un seul clic. Oui. Et ça, c'est archi pratique quand les algorithmes qu'on manipule sont complexes. Si j'ai quatre paramètres qui sont tous liés ensemble et que je veux changer simultanément pour faire un son bien maîtrisé, les modifications simultanées de paramètres sont une des voies qui nous sort de problème. Ok, pour celui-là. Je reviens ici. On va aller un petit peu plus loin. La plupart des... Non, il faut que je fasse une autre petite démonstration avant. Pardon. J'ai pris, pour le moment, des échos longs, de 100 millisecondes et plus. Mais qu'est-ce qui se passe pour les échos courts? Je vais commencer par 50 millisecondes. Je ne l'entends plus. Rythmique. J'ôte l'écho. C'est le même son de synthétiseur de Danti. Je remets l'écho. Qu'est-ce qui change? Ouais, ça joue dans le domaine du spectre. Alors, les micro-échos, ceux qui sont en dessous de 100 millisecondes, basculent au niveau de la perception. Notre oreille n'arrive plus à l'entendre comme un phénomène rythmique. Parce que pour chacune de nos perceptions, il y a des limites, il y a des seuils. En dessous d'un certain seuil, une fréquence est trop lente, on ne l'entend plus comme une hauteur, on l'entend comme un rythme. Au-dessus d'une certaine fréquence, notre oreille n'arrive pas à l'entendre comme une hauteur, elle se met à sentir ça comme une sensation d'espace. Et là, on est autour du seuil de de séparation temporelle de l'oreille qui fait que notre oreille n'est plus capable de distinguer deux événements trop proches l'un de l'autre. Physiquement, si je mesure ça et que je fais une image de ce qui se passe, j'ai bien deux échos. Ou une série d'échos, là, plutôt. Mais notre oreille ne l'entend pas comme ça. Et notre perception bascule dans une perception spectrale, une perception timbrique, à ce moment-là. Là, je garde la même note, le même réglage d'intensité de l'écho, et je vais diminuer encore la durée de l'écho. C'est pas la, ça fait la même chose, mais ce n'est pas la même note qui est ajoutée au son principal. Ici, c'est plus aigu. Tout à l'heure, c'était plus grave. Je vous disais hier que les filtres sont en réalité des retards. On a l'exemple là. Quand on met des micro-échos, on bascule dans le domaine spectral. Et si on fait ça de manière précise, et là, les règles de ça sont détaillés dans les manuels si vous voulez en savoir plus, notamment le livre de Miller Pocket que je vous recommande. Il est très très complet et très à jour. Dans le filtre circulaire. Il donne tout le calcul mathématique qui préside derrière ça. L'écho court, donc, fait une interférence d'ordre spectral, d'ordre filtrage. Ça vient changer la nature du son. Une des premières applications de ça, je parlerai des filtres après, une des premières applications de ça, toujours dans le domaine des échos, ça a été de faire des échos où le temps de retard était modulé par un oscillateur à basse fréquence. Vous connaissez l'idée de l'oscillateur à basse fréquence? C'est un oscillateur, donc quelque chose qui a une forme et qui se répète dans le temps. Mais au lieu d'être à une fréquence audible plus de 20 000 Hz, il est à basse fréquence, 1, 2, 3, 4 Hz en général. Et on s'en sert le plus souvent pour moduler un paramètre secondaire du son. Par exemple, pour faire des vibratos. Un vibrato, je fais trembler le son un certain nombre de fois par seconde. Bon. Si je branche un oscillateur à basse fréquence sur un transpositeur, j'obtiens un vibrato. Tout simplement. Je ne vais pas faire ça maintenant. Je vais brancher mon oscillateur à basse fréquence sur le temps de retard pour moduler un peu le temps de retard. Et ça va venir faire onduler cette brillance ajoutée par les retards très courts sur un son donné. Écoutons-le directement. Alors, dans Pure Data, il y a un outil qui est prévu pour ça. C'est l'outil de délai variable, V-délai, ou VD en fait. C'est une variante du délai normal. On a quoi? On a le même le même branchement de base, au lieu de s'appeler délai, ça s'appelle VD, mais ça utilise encore le principe du del write, la même fonction d'enregistrement que tout à l'heure. J'ai ici encore un oscillateur. Là, j'ai juste un oscillateur avec un timbre que je peux contrôler. C'est de la modulation de fréquence, je ne vais pas en parler pour le moment. C'est juste pour donner un son un peu plus intéressant. Et comme on vient de l'entendre, le son a un écho relativement lent. Pam! Cette chose-là, c'est essentiellement un oscillateur sinusoïdal et je contrôle ici sa fréquence. Et je lui dis de venir oublier les autres petits réglages, ils sont secondaires pour le moment. On voit que la sortie de cet oscillateur-là rentre dans l'entrée du délai pour venir moduler le délai principal. Les deux délais s'ajoutent l'un à l'autre. On a la valeur de 900 Hz qui sert de référence et celui-là vient osciller autour de 900 Hz. Donc je vais lui demander une fois par seconde. On entend waouh, waouh, waouh. Ça vient moduler la brillance du son dans le temps. Alors, les guitaristes ici connaissent déjà cet effet-là. On l'appelle selon la vitesse et l'intervalle flanging, chorus ou phasing. Mais c'est dans les trois cas le même effet. C'est un délai variable contrôlé par une fréquence basse. Après, l'effet réel dépend du temps de délai et de la quantité de réinjection. Là, je suis dans un effet plutôt lent de l'ordre du phasing, parce que mon délai est lent. Si je mets un temps de délai court, mettons 50 Hz, je peux augmenter la vitesse, la profondeur de l'excursion et augmenter. Où est ma réinjection? Ici. Pardon. Là, je suis dans des couleurs de flanging. Les vendeurs de pédales de guitare nous vendent trois pédales. Un phasing, un chorus et un flanging, alors qu'ils nous vendent trois fois la même chose. Oui, c'est le même appareil, vraiment. C'est juste une question de réglage et d'optimisation. À l'époque analogique, il y avait une légère différence de construction parce que pour obtenir des temps de délai très courts, comme ce qu'on a dans un flanger, ça demandait une construction légèrement différente du phasing qui était plus comme une variante d'écho ordinaire. Mais en numérique, c'est vraiment plus vrai du tout. Donc, on se fait avoir à payer trois fois la même chose au lieu d'un seul appareil. Les paramètres significatifs ici sont donc oublier le timbre d'origine, ça c'est juste un petit synthétiseur vite bricolé. Ce qui est important, c'est le temps de délai. La vitesse de l'oscillation et les couleurs flanging, ça s'obtient avec des vitesses plutôt lentes. Moins d'un cycle par seconde, un demi-cycle par seconde, un tiers de cycle par seconde. C'est ce que j'ai mis là, un tiers de cycle par seconde. Et par la réinjection. Dans ce genre de choses-là, plus il y a du son réinjecté, plus l'effet de filtrage devient pointu, plus le son devient comme sifflant. Cet effet de guitare électrique d'avion qui décolle, les métalleux aiment bien ça, c'est fait par un flanging avec beaucoup de réinjection et un temps de modulation plutôt lent. Je vais voir si j'y arrive avec ce réglage-là, on va voir. Vous voyez, ça c'est le son typique flanging. J'ai mis un temps de délai très court, 10 millisecondes, beaucoup de réinjection. Ça sature un peu. Et un cycle pas trop rapide. Avec un sinus, on va l'entendre comme un battement, c'est-à-dire comme un trémolo. Waouh, 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 waouh. Parce qu'il n'y a pas d'harmonique dans un sinus. Qu'est-ce qu'on entend au juste là? On entend des harmoniques du son qui deviennent intenses, puis rediminuent en intensité, puis deviennent intenses, puis rediminuent en intensité. Ça n'ajoute pas de fréquence au son. Ça fait juste faire un phénomène de loop, de grossissement sur une fréquence donnée. Ou pas. Exactement comme quand on chante. Avec ma langue, je viens rendre certaines harmoniques plus audibles dans le son. Mais si cette harmonique-là n'était pas dans le son d'origine, dans les cordes vocales en l'occurrence, il n'y aurait rien à révéler. Donc pour une sinusoïde, ça ne marche pas. Mais pour un son riche en harmoniques, ça marche.
Des harmoniques en fait qui s'annulent, c'est ça? Il y a des effets de position de phase, des choses comme ça.
Dans le flanging?
Dans le fait qu'il y a ces variations de timbre en fait. C'est parce que...
Non, ça fait plus comme un phénomène de field pass band ou de résonateur. C'est plutôt ça. Ça augmente l'intensité d'une zone spectrale.
Mais est-ce que c'est pas parce qu'il y a un moment où elle se retrouve en phase?
Oui, en fait, oui, bien sûr, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, ça fait ça parce que les différentes superpositions du son. Là, j'ai beaucoup de réinjections et un temps de délai très court. Donc, j'ai plusieurs copies du même son simultanées. Et elles sont légèrement décalées l'une par rapport à l'autre. Et quand elles sont en phase, effectivement, c'est ça. Quand elles sont en phase, les harmoniques augmentent en intensité. Et quand elles sont en opposition de phase, les harmoniques diminuent en intensité. Oui, c'est ça. On parle de l'effet de filtre en peigne. Dans les GRM Tools, Comb Filter fait ça de manière statique, pas de manière ondulante. OK pour ça. Alors, ici encore, j'avais fait quelques pré-réglages. Et vous voyez, j'ai beaucoup de paramètres cette fois. Donc, l'utilisation d'une série de pré-réglages coordonnés d'avance. Et pratique. Plus j'ai de paramètres dans mon algorithme, plus il faut lier à un seul geste une grande quantité de modifications. Il y a une dernière chose que j'ai faite ici, ça c'est pas dans le patch d'origine. Vous voyez, j'ai mis des lines un peu partout. C'est comme je vous montrais hier. Dans ce genre de choses-là, on peut faire des changements soit instantanés pour faire des gros contrastes, soit on peut faire des morphings d'une couleur à une autre couleur. Et l'outil qui sert à faire ça, c'est l'outil de Line. Line fait des interpolations, en bon français, d'une variable, d'un état de la variable à un autre état de la variable. Je vous décris ce que j'ai fait là. Dans ce son-là, j'ai un délai plutôt moyen rapide, 150 millisecondes. Et une fréquence d'oscillation à 4, assez rapide. Ici, j'ai un temps de délai de 900 millisecondes et une fréquence d'oscillation de l'ordre d'un hertz. Je pourrais passer brutalement de l'un à l'autre. J'aurais « wah 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 » d'un écho rapide à « pa 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 » d'un écho lent. Et ça passerait brutalement de l'un à l'autre. Mais ici, j'ai rajouté des lignes pour faire des transitions et vous voyez, l'oscillation ralentit. Là, elle va accélérer. Vous voyez? C'est insupportable au bout d'un certain temps, pardon. Ok, donc j'ai complexifié un peu le patch en rajoutant des lignes, mais ça me permet de mettre des temps de transition entre les événements. Ici, je l'ai fait avec des temps de transition macroscopiques pour que vous les entendiez comme une progression. On pourrait le faire avec des temps de transition inférieurs à 200 millisecondes, et ça, on ne l'entend pas. On ne l'entend pas en tant que tel, mais simplement ça lisse les changements. Pourquoi c'est utile? À cause de ces engins. Les engins interactifs en temps réel transmettent presque toujours des choses, des ordres discontinus, de manière saccadée et pas lisse. Or, musicalement, ce n'est pas toujours pertinent de faire des changements en escalier. On veut le plus souvent lisser tout ça. Si je vous disais hier, j'ai mis un échantillonnage tous les 20 millisecondes de cet appareil-là, décision arbitraire-là. Si je voulais juste lisser dans mon patch actuel les temps de transition, je mettrais des temps d'interpolation de 20 millisecondes. Comme ça, la transition se ferait entre deux échantillons de cette affaire-là. Et ça lisserait complètement le jeu. Ça le rendrait beaucoup plus contrôlable. Je peux mettre des temps de transition plus longs si je veux vraiment étaler au maximum les choses, ou bien mettre des temps de transition plus courts si je veux que ça soit quasiment instantané. Donc, je vous rappelle, pour faire ça, j'envoie des valeurs dans un objet pack qui parle à un objet ligne. La ligne vient contrôler un multiplicateur de signal, qui est une sorte d'amplificateur. Et il faut mettre des receives un peu partout pour recevoir ces informations-là, pour pouvoir moduler les temps en question par des ordres spécifiques. Ce que je fais là. Alors, bon, j'ai pris des habitudes de programmation au fil du temps. J'ai des petits codes, je peux comprendre, mais c'est peut-être pas très lisible. Alors, comme l'oscillateur à basse fréquence, on l'appelle un LFO, en anglais, Low Frequency Oscillator. Tout ce qui a trait à ce module-là de mon patch, je l'appelle LFO. Après, j'ai l'amplitude de la LFO, j'ai la fréquence de la LFO, et j'ai LFO-FR, fréquence de la LFO, GL pour glissando. Bon, j'aurais pu mettre interp ou I, mais je mets GL depuis longtemps parce que ça me fait penser aux paramètres de glissando sur les synthétiseurs analogiques qui servaient à la même chose, qui servaient à adoucir la transition d'une note à l'autre. Sur un synthé mini-moog, on l'appelle portamento aussi des fois ce réglage-là. Bon, GL c'est plus rapide, glissando. Prêtez attention quand vous vous faites des send et des receive ou quand vous nommez vos différentes composantes des patchs. Au moment où vous le programmez, ça va être clair pour vous, vous allez savoir quelle fenêtre contrôle quoi. Mais au bout d'un certain temps, quand vous développez tout un environnement, vous verrez qu'on finit par oublier qu'est-ce qui fait quoi. Et donc, mettre des étiquettes claires et compréhensibles, pas trop longues à écrire parce que ça, c'est un peu pénible, mais 3-4 lettres au moins par aspect du son que vous contrôlez, quelque chose de lisible et de compréhensible, vous y gagnerez du temps sur le cours de vos programmations. Plus ça devient compliqué, plus la lisibilité devient un facteur d'efficacité. Alors, donc ça c'est toute la famille des flanging, phasing, chorus. Un cas particulier de tout ça, c'est la réverbération. La réverbération est une sorte de délai multiple avec beaucoup de réinjections qui tente de simuler ce qui se passe dans un espace réel, à savoir que mon son, qui est un pic d'énergie, va rebondir sur toutes les surfaces ici et tous les échos de ça me reviennent simultanément. Donc, une réverb, c'est vraiment beaucoup d'échos simultanés. On peut simuler ça en mettant plein d'échos simultanés, mais l'inconvénient de ça, c'est que c'est très très lourd en temps de calcul. Donc, on a développé d'autres modules qui simulent cet effet-là d'une manière légèrement différente. On n'a pas besoin d'ouvrir le capot du moteur pour faire ça. C'est juste une façon plus économique en temps de calcul de faire la même chose. Et une fois qu'on a fait ça, les paramètres de la réverbération sont les mêmes que celles de la ligne à retard, à savoir un temps de ce qui s'appelait temps de délai devient ici temps de réverbération, c'est-à-dire le temps que met le son à retourner au silence. Ce qui était le filtrage des sons, des échos, devient un contrôle de brillance de la réverbération, mais c'est exactement la même composante pseudo-électronique. Ce qui s'appelait réinjection devient densité de la réverbération. Il y a des réverbérations très denses quand les surfaces sont nombreuses et très dures, et il y a des réverbérations plus sporadiques quand il y a moins de surfaces réfléchissantes. Donc ça se contrôle par la réinjection. Et finalement, il y a souvent un contrôle de mixage entre le son direct et le son réverbéré qui permet de doser la proportion de réverb par rapport au son direct. Mais vous voyez que conceptuellement, c'est encore une ligne à retard. Il y a ça dans Pure Data, bien sûr. Ce n'est pas dans les objets de base, c'est dans les objets d'une deuxième liste. Mais si vous faites la recherche avec feedback delay, vous allez le trouver. Alors ici, j'ai pas mis de curseur de réglage sur le temps des réverbérations ou le temps de la densité ou de la brillance, mais ça a été un peu pré-réglé ici. Ça fait différentes couleurs de réverb. Pourquoi il y a un larsen ici? C'est parce qu'il y a une résonance dans la réverbe qui correspond à une des fréquences de résonance de la pièce. Et le micro capte ça.
Qu'est-ce qui fait que dans une réverbe, il n'y a pas cet effet rythmique si c'est qu'un délai particulier?
C'est parce que c'est dans le monde réel, dans l'acoustique réelle, chaque surface réfléchit. Donc les quatre murs, ça a tendance à nous donner quatre échos très clairs, mais aussi tous les petits angles. Vous voyez le rebord là, l'autre rebord là, la lampe là, le rebord là, chaque pierre dure ici. Donc chacun envoie un petit écho. Et ces échos-là sont juste ces objets réfléchissants-là sont juste quelques centimètres à côté les uns des autres. Du coup, ils renvoient leur écho tous simultanément. Ce qui fait qu'il y a une densité d'échos très grande comme ça. Au lieu d'avoir quelques échos très distincts, il y a une très grande densité d'échos.
Oui, dans
Bon.
la programmation, en fait.
Oui, alors dans la programmation, le module de répétition, au lieu de répéter exactement ce qu'il reçoit, il fait une espèce d'étalement temporel. Ça s'appelle un diffuseur. Et il fait ça en prenant la forme, en l'accroupissant plusieurs fois avec des décalages temporels. Donc, techniquement, c'est comme ça que ça se fait. Je ne sais pas si on peut entrer dans l'objet ici. Non, il est fermé celui-là. Si vous avez accès à Max, l'objet. Comment il s'appelle celui-là? Reverb. Non, il s'appelle. Attendez, je vais aller voir. Comment il s'appelle? Il s'appelle. Il y en a un où on voit l'algorithme interne et vous trouverez toute la réponse. C'est un objet externe, c'est pas un objet. Ça doit être là. Non, c'est pas celui-là. Non, non, mais en tout cas, c'est par fenêtrage. Pour vous répondre précisément, il faudrait que je vous explique un peu la théorie de la FFT. Vous connaissez ça? Bon, il fait un fenêtrage du signal et fait des copies multiples du signal fenêtré en les décalant temporellement. Mais tout ça en une seule opération et non pas par mémorisation et superposition par réinjection, en fait. Ça, c'est la réponse courte. Mais bon, trouver cet objet, c'est dans les extents de tierces parties dans Max. Il y en a un où on peut ouvrir et on voit l'opération mathématique qui est faite. Soit dit en passant, un des intérêts du livre de Miller Pocket, si vous aimez un peu les maths, c'est que ces algorithmes à lui sont vraiment faits comme des équations mathématiques. En lisant son livre, c'est là où j'ai compris que finalement, quand on branche un module à un autre module avec telle opération, ce qu'on fait réellement, c'est de l'algèbre sur du signal. C'est vraiment ça qu'on fait physiquement. Et lui, dans sa façon de faire ses démonstrations, il est docteur en mathématiques au départ. Et il le fait comme ça. Donc, il dit, prenez un signal, mettez-le au carré, divisé par le quotient de ci et de ça. Il fait ses explications de façon mathématique. Et pour moi, ça prend du sens parce que finalement, quel est l'intérêt de tout ça? C'est d'arrêter d'être piégé par les fabricants de logiciels ou de matériel qui prennent les décisions à notre place et qui ne nous disent pas ce qu'ils font exactement. Du coup, on a toujours un contrôle un peu flou, un peu imprécis sur ce qui se passe. Alors que quand on peut arriver à ouvrir le capot et regarder, ah, ici c'est une transformée de Fourier comme ceci, là c'est un filtrage comme ça, là c'est un délai de temps d'échantillon. Toutes ces opérations-là, on arrive à bien mieux contrôler ce qu'on fait, et pour du jeu en temps réel, on a un sens exact de ce qu'on est en train de moduler.
Ça nécessite de savoir clairement ce qu'on veut faire, parce que le jeu sous contrainte aussi, il est intéressant
C'est vrai.
D'avoir juste trois boutons.
Ça, c'est sûr. Mais en fait, il y a une alternance des deux. Quand on est en mode programmation, là, on bidouille, on regarde, on analyse. Et quand on est en mode performance, au contraire, on est en mode de musicien. Et là, on ne contrôle plus avec autant d'exactitude. On finit par oublier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut mettre des étiquettes claires, parce qu'on oublie. Mais le fait de l'avoir fait nous laisse des traces. Par exemple, vous êtes en temps réel, vous voulez un son, vous avez un de ces délais variables avec oscillateur à basse fréquence. Et vous vous dites, j'aimerais bien faire une transition graduelle d'un son d'écho un peu psychédélique à un son de flanging très accentué, type métal hurlant. Si vous êtes dans un mode d'utilisation passive des choses, vous allez mettre deux algorithmes et faire un mixage en fondu enchaîné entre les deux. Si vous êtes en mode analytique ou dans lequel votre mémoire analytique joue un rôle, vous allez juste changer les bons paramètres du même algorithme. C'est ce que je faisais tout à l'heure pour passer d'un phasing à un flanging. Simplement en me rappelant que finalement, ce que j'ai à manipuler, c'est ça et ça et c'est tout. Oui. Donc, la connaissance informée, elle n'est pas un frein à l'intuitivité et ou l'improvisation à contrainte, comme vous dites. Elle est juste... Elle permet de focaliser plus précisément ce qu'on fait. Évidemment, quand on joue, on n'est pas en mode analytique. C'est une autre configuration mentale. OK. C'est peut-être l'heure de prendre une pause. Un petit café, ça nous fera tous du bien. Et après, il me reste quelques explications sur le... sur les compresseurs. Ça aussi, c'est souvent mal compris. Et sur les filtres. Puis après, je vous fiche la paix.